Voilà. Alors, Seigneur, on te remet cette petite machine-là, parce que c'est important. Alors, il y a quelques années, j'avais fait un enseignement qui s'appelait « L'épouse monte du désert ». Je ne sais pas si vous vous rappelez pour certains. Et un jour, Michel, elle nous a téléphoné, puis elle m'a dit « Mais tu sais que tu as oublié un enseignement ?» Je lui ai dit « Ah bon, c'est possible, hein ?» Ben oui, l'époux aussi monte du désert. Alors, j'ai dit « Ben oui, c'est vrai, faudrait que je l'étudie. » Mais je vous assure, j'ai eu du mal. Hein. Alors, j'ai tenu et j'ai fait une étude donc, qui s'appelle « L'époux monte du désert ». Alors, bien entendu, le point de départ, il est simple. Hein. Vous savez bien que le Seigneur, quand il a été baptisé, il est allé au désert pendant 40 jours. Et pour ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps, vous avez dû entendre des enseignements multiples et variés sur ce thème. Hein, les trois tentations sur Yeshua. Donc, je vais essayer de ne pas répéter ce que vous avez entendu. Et donc, on va prendre des chemins un petit peu de traverse, mais qui, quand même, parlent de cela. Alors, les textes qui nous parlent du passage de Yeshua dans le désert, il y en a trois. Il y en a dans Matthieu, il y en a dans Marc et il y en a dans Luc. En gros, je vous rappelle, hein, pour qu'on se remémore, je prends ici Matthieu. Alors, c'est Matthieu 4. Hein. Après, vous avez Marc 1 et puis vous avez Luc 4. Mais c'est facile à retrouver. Donc Matthieu 1 nous dit « Alors Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Yeshua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Yeshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Yeshua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et te le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Yeshua et le servaient. Tout le monde connaît ce texte. Hein, tout le monde le connaît. Je voudrais simplement signaler qu'il y a une petite variante entre Matthieu 4 et Luc, parce que Luc le développe aussi assez longuement, il y a une petite variante, c'est que dans le premier texte, dans Matthieu, eh bien, le tentateur s'est approché après 40 jours. Dans le second, il a tenté Yeshua pendant 40 jours. Voilà la petite différence que je ne vais pas aborder ici, parce que ce que je voudrais, c'est approfondir la question du désert. On se rend compte quand on étudie les Écritures que c'était un passage obligé pour Yeshua. C'était un passage obligé. D'ailleurs, vous vous rendez compte que c'est le Saint-Esprit qui le conduit au désert. Donc, il se laisse faire, il y va, parce que Yeshua écoute l'Esprit. Et ici, il y a un mot que je n'aime pas du tout. Il est traduit « pour y être tenté ». Je vous dis tout de suite que je n'aime pas ça du tout. La bonne traduction, c'est « pour y être mis à l'épreuve ». Pas pareil. Dieu ne tente personne. Parce que, vous savez, si c'est le Saint-Esprit qui l'amène au désert pour être tenté par le diable, c'est comme si Dieu disait « Allez, maintenant, à Satan, vas-y, tu peux le tenter ». C'est comme si Dieu voulait tenter. Non. Dieu va mettre à l'épreuve Yeshua, qui est Dieu incarné. C'est assez curieux quand même. Hein? Donc, il va mettre à l'épreuve l'incarnation. D'accord? Alors, vous savez que le mot Midbar en hébreu, on va faire de l'hébreu encore, hein? Je suis désolé, mais moi, on démarre dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau... Mais on va aller dans l'Ancien. Hein. On sait que le désert, ça se dit Midbar, en hébreu. Midbar. Et ça vient de la racine d'Avar. Et d'Avar, ça veut dire parole. Autrement dit, quand on va au désert... on reçoit la parole. Dieu parle au désert. Rappelez-vous, quand Dieu parle d'Israël, il dit « Je vais la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. » Donc, le mot « davar », il a le sens de parole, mais il a aussi le sens de mettre en ordre, de mettre en rang. Et avec ces mêmes lettres, on forme le mot dover, qui a le sens de pâturage, où est conduit le bétail. C'est un pâturage. Je me souviens, quand on est allé en Israël la première fois, Véronique et moi, au matin, on était dans le désert, on a dormi dans le désert, et au matin... il y avait des troupeaux de chèvres et on nous disait ça, ce sont les pâturages de Dieu. Et on regardait le désert, c'était des cailloux. Et quand vous vous mettiez presque à plat ventre, vous voyez des fines brindilles d'herbe. C'était un peu vert. Et on nous disait, ben ça c'est les verts pâturages. C'est les verts pâturages qui sont dans le désert. Ah oui, maintenant ça c'est pas du tout comme chez nous. Hein. Alors, avec ces mêmes lettres, parce que la parole c'est quand même important, hein, avec ces mêmes lettres, on écrit le mot dévir. Donc je vous rappelle, davar va donner dévir. Et vous savez ce que c'est le dévir? C'est le lieu très saint. C'est le lieu très saint. Le lieu où la parole était donnée à Moshe. Le lieu très saint. C'est ce qu'on appelle, nous, le Saint des Saints. D'accord? Alors, il nous est dit que c'est l'Esprit Saint qui a conduit Yeshua au désert. Et, en quelque sorte, on constate que si Dieu veut éprouver l'incarnation, s'il veut éprouver l'incarnation, il donne l'autorisation à Satan de le faire. Satan ne fait pas ce qu'il veut. Satan a reçu l'autorisation de Dieu et il a l'autorisation pour essayer de faire tomber l'incarnation. Faut se rendre compte de ça. Parce que avant d'emmener Yeshua plus loin, il faut vérifier qu'il va tenir. Et comme on dit, il n'y a pas de preuve sans épreuve. Si vous n'avez pas d'épreuve dans votre vie, vous pouvez vous inquiéter. Excusez-moi. Mais comme le disait Jude, ou comme les témoignages qui viennent d'être dits ici il y a 5 minutes, eh ben, ils passent par des épreuves pour donner des preuves. Je rappelle ce verset de Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, alors c'est une mauvaise traduction, mais bon, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est pour ça que je ne suis pas content que ça soit traduit que Yeshua est amené au désert pour être tenté. Ce n'est pas vrai. Il est tenté pour être mis à l'épreuve. C'est pas pareil. Et d'ailleurs, en hébreu, il y a un seul mot pour exprimer cette pensée, c'est le mot nasa, qui veut dire tester, essayer, éprouver, passer au contrôle, expérimenter. Quand on fabrique une voiture, à la sortie de l'usine, elle est testée. On vérifie tous les boutons, tous les mécanismes, on vérifie si tout fonctionne. Sinon, le client ne va pas être content. Donc, ben, excusez-moi, mais au tout début du ministère de Yeshua, il faut tester l'incarnation. Et c'est normal. Et donc, cette mise à l'épreuve est voulue par Dieu, le Père. Et Yeshua va être soumis à cette loi que nous subissons aussi, qui est décrite dans Matthieu 26, 41. « Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et sa chair, et son âme, et même son esprit, vont être éprouvés. » Il ne faut pas croire que Yeshua va réussir parce qu'il est Dieu. Au désert, c'est un homme. C'est un homme. Et il n'a pas de pouvoir surnaturel, même si Satan veut lui dire « si tu appelles le Seigneur, il va t'envoyer des anges, etc. Enfin, » Non. Il ne veut pas utiliser ses pouvoirs surnaturels. Donc, il est un homme. Comme vous et moi. Alors, ça commence au désert. Et dans Hébreux 4,15, on lit « Car nous n'avons certes pas un grand desservant incapable, c'est de Chourakis, hein, de compatir à nos faiblesses. En tout, il est éprouvé par la similitude, sauf pour la faute. » C'est-à-dire qu'il, en gros, il va subir tout ce que nous subissons comme épreuve, mais il ne tombera pas. Et ce sera la preuve qu'il peut aller plus loin et donner sa vie pour nous. Alors, ici, je me suis dit, mais ok, il y a 3 épreuves. Mais attention, ces épreuves, elles n'arrivent pas n'importe quand. 40 jours. 40 jours sans boire, sans manger. Sans boire, on n'est pas sûr. En tout cas, 40 jours sans manger, il faut le faire. D'accord ? Ensuite, c'est au désert, il fait chaud. Même si vous trouvez un rocher pour vous mettre à l'ombre, vous voyez ce que c'est. D'accord ? Bon. Mais je me suis dit, Seigneur, ok, on peut parler sur les trois épreuves, mais au fond, qu'est-ce qu'il est allé faire là ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Et je me suis rappelé d'une chose. Il faut toujours revenir au début de la Bible. C'est souvent, et Jacques Collin le fait aussi souvent, il revient, il dit, on va retourner au début. Et le premier Adam, il est tombé par l'arbre de la connaissance, suite à la tentation mise à l'épreuve du Narache, le serpent, le Narache. Satan, comme il a réussi, il a soumis Adam et son épouse. Il les a soumis. Donc Adam a perdu le contrôle de la terre. Et Narache, le serpent, a mis la main sur la terre. Pourquoi ? Parce que quand on se soumet à une autorité, c'est l'autorité qui prend ce que vous avez. Dieu avait donné la terre à l'homme, il lui avait dit, tu vas la cultiver, c'est pour toi, domine sur les arbres, etc., sur les animaux, domine. Donc l'homme avait la terre en domination, mais l'homme s'étant soumis au Narache, le Narache a pris la domination de la terre. Et c'est d'ailleurs comme ça que quand le Narache va rencontrer Yeshua au désert, il va dire, mais si tu te prosternes, moi je te donnerai tout ça parce que ça m'a été donné. Vous comprenez ça, c'est important. Donc, si Yeshua est venu, Yeshua c'est Dieu, Dieu incarné. Si Yeshua est venu, c'est aussi pour reprendre la terre et la redonner aux hommes de bonne volonté, c'est-à-dire à son épouse. D'accord ? C'est comme ça que la chose doit se faire. Et donc, c'était l'héritage des fils de l'homme, la terre. L'héritage. Et je me suis dit, mais c'est une question d'héritage, cette affaire. Et vous savez, la Bible, elle s'explique par la Bible. Quand il y a des mots comme ça qui vous font tilt, toc, héritage, je me suis dit, mais il y a un homme dans la Bible qui s'est fait piquer son héritage. Eh oui, vous vous rappelez dans l'histoire de Jézabel? Et je me suis dit, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau, cette histoire. L'histoire de Naboth. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Naboth? Alors, c'est une histoire qui est racontée dans le premier livre des Rois, chapitre 21, versets 1 à 25. Je vais en lire un petit bout. Je vous parlerai de Jézabel après, parce que ce n'est pas son nom. Il n'y a pas de Jézabel dans la Bible. Je m'excuse de le dire comme ça, c'est encore un coup des Grecs. Bon. Après ces choses, donc c'est 1 Roi 21. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jizréel. Il avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. « Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2000 hommes qui déposeront ainsi contre lui « Tu as maudit Dieu et le roi. » Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait dit. D'après ce qui était écrit dans les lettres, ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple de Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, le lapidèrent et il mourut. Je vais arrêter là la lecture parce qu'en fait voilà Jézabel qui vole une vigne pour en faire un jardin potager. Écoutez mes amis, ça c'est prophétique. C'est tout à fait prophétique. Et ce que le Seigneur est venu faire sur terre, c'est reprendre le jardin potager et remettre sa vigne. Le personnage de Naboth, on ne dit pas Naboth normalement, c'est Naboth en hébreu. Et Naboth vient de la racine hébraïque Nouv, qui veut dire s'épanouir, porter du fruit, jaillir, grandir, faire prospérer. Elle met à mort cette prospérité, ce fruit. Elle met à mort cela pour pouvoir planter des légumes. Quelle drôle de chose, hein ? Et cette vigne, évidemment, c'est la vigne du Seigneur. Et quand le Seigneur Yeshua est venu, il a donné des paraboles. Il a donné des paraboles. Et notamment dans Matthieu 21, il dit, ça va du verset 33 à 41, mais je ne vais pas tout lire parce que c'est long, mais vous irez le lire. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, etc., etc. Il prépare sa vigne, et puis il envoie des serviteurs, et ces serviteurs, à chaque fois, se font tuer. Et puis, à la fin, il envoie son fils. Alors on dit, voici l'héritier, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Emparons-nous de sa vigne. Et donc, ça raconte l'histoire de Yeshua, évidemment. Mais la vigne, elle est plantée sur un territoire qui n'est pas seulement Israël, elle est plantée sur un territoire qui est le monde. Et l'héritage des fils de l'homme, c'est toute la terre. Et il a fallu que Yeshua vienne et qu'il y ait au moins cette opération au désert pour reprendre et dire à Satan, les limites, c'est la terre. Et ça n'est pas à toi. Tu l'as volé. Et détruire des vignes, c'est détruire des arbres. Un pied de vigne, quand il pousse, ça vient un arbre. Nous sommes bien d'accord. Dans Jérémie, chapitre 11, verset 19, on peut lire « Et moi, comme un mouton de tête. » Écoutez, c'est comme si c'était Yeshua qui parle. « Et moi, comme un mouton de tête, transporté à l'abattage, je ne savais pas que, contre moi, il pensait des pensées. » Détruisons l'arbre avec son pain. Tranchons de la terre des vivants, son nom ne sera plus rappelé. Détruisons l'arbre avec son pain. Détruisons la vigne avec ses fruits pour remplacer par des légumes. Vous voyez ce qui est en train de se passer là ? Le mot légume, parce que ça m'a intéressé cette histoire. Le mot légume. D'abord, quand Jézabel prend cette vigne, je me suis dit, mais finalement, pourquoi elle n'a pas gardé la vigne ? Ou Akab, pourquoi il n'a pas gardé la vigne ? Il aurait pu. Non ? Il va se donner du mal pour arracher la vigne, donc des arbres qui donnent des fruits, pour y mettre quelque chose qui ne va pas donner des fruits. C'est une autre nourriture. Vous voyez ? Alors, le mot potager, en hébreu, se dit yarak. Yarak. Et le même mot signifie cracher. Déjà, c'est pas très élégant. Avec les mêmes lettres, on forme le mot keri, qui veut dire aller à la rencontre en ennemi. Un jardin potager est destiné à donner des légumes et non des fruits. Or, l'Éternel attend des fruits. Pourquoi lui donnerait-on des légumes ? Le mot légume se dit zeroïm, qui vient de la racine zara, qui signifie disperser. Avec les mêmes lettres, on forme le mot zahar. Zahar, dont l'essence, écoutez, c'est spirituel ce que je vous dis. Donc, le mot légume, zeroïm, vient de zara, qui signifie disperser, qu'avec les mêmes lettres, on fait zahar, dont le sens est crier de souffrance. Être petit, crier de souffrance. À la place des fruits dont Dieu attend, des fruits de joie, des fruits de tout ce que vous voulez, on va faire venir des légumes qui poussent des cris de souffrance. Vous comprenez spirituellement ce que ça veut dire ? Autrement dit, on voit que l'esprit diabolique de Jézabel s'est rendu en ennemi pour s'emparer de la vigne de Dieu qui aurait dû donner ses fruits pour en faire un potager duquel montent des cris de souffrance. C'est prophétique. Regardez ce que devient ce qu'on appelle l'Église. Ce que devient ce qu'on appelle le peuple de Dieu, des cris de souffrance partout. Il suffit d'écouter les histoires des uns et des autres. Alors, je vais vous parler de cette reine Jézabel, qui ne s'appelle pas Jézabel. Je m'excuse au prix auprès des dames et des demoiselles qui s'appelleraient Isabelle. Parce qu'en hébreu, ça n'est pas Jézabel, c'est Isabelle. Son vrai nom, c'est Isabelle. Et Isabelle, ça vient d'une racine qui veut dire Zével, c'est Zével, qui veut dire fumier, excrément de forme ronde. Je vous prie de m'excuser, mais c'est pas moi qui ai décidé ça. Et Isabelle veut dire amas d'ordures, île de saleté. Donc racines Zével, fumier, et I avec un Aleph, qui est une forme contractée de Oy, qui veut dire malheur. Vous vous rendez compte comme prénom? Fumier, du fumier, malheur. J'y peux rien, c'est comme ça. Elle s'est mariée avec son père, c'était le roi de Tsidon. Et il s'appelait Et Baal, ce qui veut dire proche de Baal. Et cette fameuse Isabelle a introduit en Israël, c'était une étrangère, elle a introduit en Israël les cultes de Baal et d'Astarté. Baal était le dieu de la pluie et Astarté, plutôt Ashéra, la déesse de la fécondité. Et ça faisait une union intime de deux dieux qui normalement devait donner la prospérité. Vous voyez ? Donc, voilà ce qu'est venu faire Isabelle. Elle a transformé une vigne qui devait donner des fruits en légumes, d'où montrent des cris de souffrance. Mais elle promet la prospérité grâce à ses faux dieux, en échange éventuel, évidemment, d'une prostitution spirituelle. Parce que si vous vous soumettez à Baal et à Astarté, vous êtes prostitué. D'accord ? Donc c'est exactement ce que Satan vient proposer à Yeshua. Il dit dans Luc 4, versets 5 et 7, le diable, l'ayant levé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous voyez, la prostitution. Alors, maintenant qu'on en est arrivé là, on va aller quand même regarder un petit peu les légumes. C'est normal. On a compris que les légumes d'Isabelle, c'est pas des fruits. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Qu'est-ce qu'ils apportent? Les légumes, c'est un symbole de nourriture terrestre. Rappelez-vous quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, à un moment donné, même assez souvent d'ailleurs, ils n'en pouvaient plus. Et des murmures sont montés. Moshé, il a eu beaucoup de mal avec ce peuple. Alors, dans Nombre 11 au verset 5, on lit « Il nous souvient du poisson que nous mangions gratuitement en Égypte. » Ils ne se rappellent plus qu'ils étaient esclaves. Des concombres et des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, nous sommes exténués. Nous manquons de tout. Point d'autre perspective que la manne. Voilà. Et la question qui se pose au désert est donc le choix entre la nourriture terrestre qui est représentée par les légumes et la nourriture céleste qui est représentée par la manne. Et ils en ont tellement marre de la manne, ils voient même pas que c'est une bénédiction, qu'ils disent, mais nous on voudrait retourner aux légumes. Et Isabelle, elle attend que ça, parce qu'elle a préparé un jardin potager. Mais venez donc, mes petits. Et quand vous mangez de la nourriture terrestre, c'est pas du fruit. Le fruit, je vous rappelle, hein, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. Vous vous rappelez de ça, ce fruit-là. Donc, si vous mangez des légumes, il n'y a pas le fruit. Qu'est-ce qui se produit? Sans le fruit de l'esprit, le légume va vous donner de la force, mais sans le fruit. Donc, de la force, mais pas d'amour. C'est que du légume. Spirituel, je parle, bien entendu. C'est que du légume. Vous aurez de la force. Vous croirez que c'est bien. Mais pas d'amour. Pas d'amour. Et donc, pas de paix entre les hommes. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de shalom. D'accord? Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de paix, eh ben, c'est la guerre et c'est la souffrance. Et c'est de là que montent les souffrances qui viennent des légumes spirituels. Vous voyez que là, qu'est-ce qu'elle propose? Eh bien, elle propose la nourriture de l'arbre de la connaissance. Évidemment. Et donc, elle a essayé d'arracher cette vigne qui devait donner ce fruit pour y planter l'arbre de la connaissance, les légumes spirituels. Donc, qu'est-ce que c'est cette nourriture qu'elle propose? Eh bien, ce sont les arts, les sciences, la technique, la pensée de toutes sortes de mets délicats. Mais en réalité, quand vous réfléchissez bien, il s'agit toujours de plaire à soi-même, de surpasser les autres et de se dépasser. C'est tout le combat qu'il y a entre l'esprit de Tzion et l'esprit de Yavan. Michel en a parlé un petit peu, l'année dernière j'avais fait une étude là-dessus. L'esprit de Yavan, c'est l'esprit grec, je vais en reparler un tout petit peu pour vous rappeler. L'esprit grec, c'est quoi? Penser aux Jeux Olympiques. Quel est l'esprit des Jeux Olympiques? C'est d'arriver le premier. D'accord? Donc c'est la concurrence. Et la concurrence, vous allez la retrouver dans toutes les organisations. La concurrence dans les entreprises, la concurrence pour arriver à être chef, pour arriver à ceci, pour arriver à cela. C'est l'esprit de concurrence. Tandis que dans la maison de Dieu, l'esprit de Tzion, c'est pas la concurrence, c'est chacun à sa place. Et chacun complète l'autre. Amen. Vous voyez? Malheureusement, dans la vigne de Dieu, eh bien, est venue la concurrence. Et c'est comme ça que, et tout à l'heure Landry le disait, il y a des gens qui veulent être pasteurs, il y a des gens qui veulent monter au-dessus des autres. C'est l'esprit de Yavan. Et il faut sortir du cœur de l'épouse, il faut absolument sortir l'esprit de Yavan. Et ça, c'est un combat qui est décrit dans le livre de Zacharie. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est assez long, mais c'est quelque chose d'important. Alors, il faut choisir entre le pain du ciel ou les légumes. Jean 6, 32 nous dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. » Yeshua leur dit, en vérité, je vous le dis, Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et le pain du ciel, c'est les Écritures. Ce sont les Écritures et c'est Yeshua lui-même. Elle est vivante, l'Écriture. Elle est vivante. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a maintenant peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, quelqu'un nous avait demandé, avait eu un coup de téléphone en nous disant, voilà, il y a une dame qui est à l'hôpital, c'est une dame juive, elle est allée dans les églises, mais elle n'en peut plus d'entendre parler de Jésus. Elle n'en peut plus parce que ce qu'elle a vu, ça l'a écœurée, enfin bref, vous connaissez. Elle est dépressive, mais vraiment dépressive. Elle est à l'hôpital. Donc on ne la connaît pas, mais on dit, bon ben, on va aller la voir et surtout on ne va pas lui parler de Yeshua. Ah oui, hein, c'est ce qu'on nous avait demandé. De toute façon, on ne veut pas imposer Yeshua aux Juifs. Moi, je ne leur impose pas du tout. Et on arrive là, elle, c'était vraiment une femme qui était abattue de chez abattue. Abattue de chez abattue. Elle parlait tout doucement, dans sa chambre, c'est à peine si elle savait se lever. Elle était dépressive de chez dépressive et elle disait, mais si je continue comme ça, dans une semaine, ils vont me mettre en hôpital psychiatrique. Pour vous dire dans quel état elle était. Et comme c'était une juive, elle avait sur sa table de nuit les psaumes en hébreu. Et on se souvenait que notre ami Raïm en Israël nous avait dit, tu sais que les écritures en hébreu sont vivantes. Et il nous disait, Raïm, moi quand je suis malade, je lis de l'hébreu et ça me guérit. Ah bon? Alors Véronique, elle parle avec cette dame et puis elle lui dit, ben, tu pourrais lire un psaume en hébreu, mais tout doucement. Et puis, c'est tout ce qu'on pouvait lui dire à cette femme. D'accord?
Hein?
Voilà. Tu pourrais remercier Hachem pour les progrès que tu feras, les petites choses. Voilà, puis le jour où ça ira mieux, bah, tu avanceras un petit peu à la fois. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Hein. Écoutez, elle a fait. Elle a lu les psaumes en hébreu. À la fin de la semaine, elle rentrait chez elle.
Amen.
La parole est vivante.
Amen.
La parole est vivante. C'est des histoires vraies, hein, je n'invente pas. Hein. Alors la parole, le pain du ciel, est donc formé par l'ensemble des Écritures, et ces Écritures ont été incarnées à un moment donné par Yeshua. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas, ça, c'est impensable, mais c'est comme ça. Mais de toute façon, il est écrit Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est tout. Autrement dit, il s'agit de ça, voyez mes amis, ça, c'est l'arbre de vie. Est-ce que l'arbre de vie est au milieu de votre jardin? La question, elle est là. L'arbre de vie est capable de développer en nous le fruit tant attendu par Dieu. Il est capable. N'oublions pas que Navoth, dont on a volé la vigne, était l'image du Mashiach. C'est l'image du Mashiach. Le Mashiach, on le voit à travers toute la Bible, hein. C'est vrai qu'il est écrit qu'il est l'alpha et l'oméga. Eh bien, pour ceux qui font un petit peu d'hébreu, quand vous lisez l'hébreu, mais pratiquement à tous les versets, et quelquefois plusieurs fois par verset, vous avez le mot « et ». Un tout petit mot de deux lettres. Aleph, Tav. C'est-à-dire la première et la dernière lettre. C'est un tout petit mot qui ne se traduit pas. C'est un complément d'objet direct. Et. Et, comme ça, tous les trois, quatre mots. L'alpha et l'oméga. La première et la dernière lettre. Et Yeshua, il est partout dans la Bible. Alors, le Machiav, son nom, c'est Yeshua, qui veut dire aide, délivrance, salut, bonheur, victoire. Et avec ce mot-là, on forme le mot Moshaya, qui veut dire avocat. Et on forme aussi le mot Shua, dont le sens est heureux, riche, généreux et noble. Vous vous rendez compte? Alors parlons un petit peu de ces légumes. Ben oui, vous voyez, moi je suis parti au désert, je suis arrivé dans un champ de légumes. C'est quoi les légumes? Ben, c'est la nourriture de l'âme et du corps. C'est la nourriture de l'âme et du corps, c'est pas la nourriture de l'esprit. Et Michel en parlait hier, elle disait, mais il faut avoir le discernement pour savoir si un enseignement biblique est de Dieu ou non. Et il faut avoir le discernement. C'est quoi comme nourriture? À quoi ça vous conduit? Est-ce que c'est un enseignement de l'esprit? Ou est-ce que c'est un enseignement de légumes? Je vous rappelle aussi que... Bon, je vais dire quelque chose ici qui va peut-être vous sembler bizarre, mais ça ne fait rien, ça me vient à l'esprit, mais... Manger les légumes d'Isabelle, c'est manger une nourriture qui vient d'un vol. Moyennant quoi, vous êtes des receleurs. Et moyennant quoi, vous tombez sous le coup de la malédiction des voleurs, qui est décrite dans le livre de Zacharie. Et moyennant quoi, ça détruira jusqu'à votre maison. Dans le livre de Zacharie, je n'avais pas prévu du tout de parler de ça. Je vais le lire. Très peu de gens connaissent ça. C'est Zacharie 5. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur, et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec la bois, le bois et les pierres. Donc toute la maison est détruite à cause de la malédiction du voleur. Moi je vous dis ça en passant, mais si vous avez chez vous des objets qui viennent d'un vol, ou si vous avez volé des choses vous-même dans le passé, ou si vous vous êtes marié avec un voleur, excusez-moi, la malédiction du voleur est chez vous. À partir de là, ça va détruire toute la maison. Et il faut couper cette malédiction. Et il faut remettre les choses en ordre. Et si des choses ne sont pas à vous, il faut les rendre ou il faut les détruire. Je dis ça, ça n'a rien à voir avec mon étude, mais je ne sais pas pourquoi. Je le dis, c'est très peu connu. Mais il y a des gens qui se retrouvent sur la paille, ils ne savent pas pourquoi. Et quand on remonte leur histoire, on se rend compte qu'il y a des vols. Ça peut venir des ancêtres également. Et donc, il faut couper ces choses. Bon, je passe. Satan, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? La vigne de Naboth, ça représente l'épouse de Yeshua. C'est l'épouse. Normalement, elle se prépare pour le mariage. Mais elle est mélangée avec une grande partie qui se prostitue. C'est le mélange du blé de l'ivraie. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? En semant d'autres choses que la parole de Dieu, ou en la déformant, et c'est ça le plus souvent, il peut espérer que la vigne ne donnera pas son fruit, et qu'à la place, il y aura un ersatz. Son but est de transformer la vigne en jardin potager. Il aurait voulu détruire la vigne et en rester là. Il aurait pu détruire la vigne, puis c'est tout. Mais non, son but, c'est de mettre la main sur l'épouse pour qu'elle ne puisse plus donner son fruit. Le but est de transformer celle qui doit être l'épouse pure du Mashiach en une prostituée. Et le principe se résume à une question de nourriture. Est-ce que vous avez la nourriture céleste ou est-ce que vous avez la nourriture charnelle, celle d'en bas? L'une est pour l'esprit, l'autre est pour l'âme. Et vous voyez, je vais vous prouver que c'est vrai. Il faut toujours se servir des Écritures pour dire quelque chose. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, au verset 24, on lit « Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez le pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. » Bon. Le miel en Israël, pour ceux qui sont allés là-bas, vous savez qu'il y a deux sortes de miel. Il y a le miel des dattes qui coule des arbres, littéralement. On fait du miel, c'est du jus de date. Et ça a vraiment le goût du miel. Donc c'est le miel des dattes qui coulait et qui faisait littéralement des ruisseaux. Donc où coule le lait et le miel? Ça, c'est une sorte de miel. Et puis, l'autre miel, c'est évidemment le miel des abeilles. Et vous savez qu'une abeille, en hébreu, ça se dit dévora. Débora, si vous préférez. Débora, ça veut dire abeille. D'accord? Eh bien, dévora, sa racine, c'est davar. Et davar, c'est la parole. Donc, si vous mangez la parole, vous mangez du miel. Le pays où coule le lait et le miel. Rappelez-vous de l'histoire de Samson. J'en avais parlé il y a 2 ans, ça, de Samson. Mais je vous rappelle un petit morceau. À un moment donné, parce qu'on ne comprend pas toujours les Écritures, vous savez, quelquefois, on se dit, mais pourquoi il racontait une histoire pareille? Samson, il s'en va dans le pays des Philistins, c'est-à-dire la bande de Gaza, pour être plus clair. Et là, il rencontre un lion. Il trucide. Et puis, il savait faire ça, lui. Il continue son chemin, et il revient un petit peu plus tard. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans le ventre du lion? du miel. Un essaim d'abeilles avec du miel. Alors, bah, si vous lisez ça, vous dites, bon, bah, c'est une belle histoire, quoi, hein, c'est pour raconter aux enfants, c'est intéressant, mais ça a un sens spirituel. Parce que, qu'est-ce que c'est le lion? Regardez la bande de Gaza, normalement c'est l'Égypte. L'Égypte, les gardiens de l'Égypte, ce sont les sphinx. Les sphinx, ce sont des lions. D'accord? Bon. Autrement dit, Samson rentre en Égypte et il détruit l'autorité qui est puissante là, sur la bande de Gaza. Il le tue. Et à partir de là, la bande de Gaza, vous pouvez manger du lait et du miel. Vous voyez? Et tout s'explique comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait maintenant? Parce qu'on retourne un petit peu au désert quand même. Hein. Yeshua est au désert là, en ce moment. Hein. Ça dure 40 jours. On n'a pas fini, hein, je vous assure. Hein. C'est une longue histoire. Hein. Eh bien, il fallait que Yeshua soit confronté à Satan, qui se croyait propriétaire de la terre, pour reprendre cette terre des mains du malin. Et donc il fallait qu'il soit confronté au malin. Et pour devenir maître des lieux, de revenir maître de la terre. Alors évidemment, tout ça, c'est un processus qui est assez long d'ailleurs, mais la parole nous dit qu'on ne le voit pas encore. Parce que si vous regardez la terre actuellement, vous vous dites, mais qui c'est qui gouverne? D'accord? Mais quand Yeshua va revenir sur le mont des Oliviers, il revient, attention, en guerrier. Et il va reprendre possession de sa terre pour y mettre son royaume. Et ce sera un royaume sur cette terre. Moi, j'attends pas un royaume dans le ciel. Hein. Je l'attends sur terre. Et c'est pour ça aussi que j'avais expliqué à une époque que le Seigneur regarde votre vie pour savoir, mais il recrute, comme je l'avais dit, il recrute pour ce royaume. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez dans le royaume? Donc il regarde ce que vous aimez, ce que vous savez faire, etc. Comment vous vous comportez, etc. Il recrute, il regarde votre vie et il dit, ben voilà, lui je pourrais le mettre comme jardinier parce qu'il sait bien cultiver. Et il aime beaucoup. Rappelez-vous, à un moment donné, Dieu dit, il y aura des récompenses. Eh bien, il y en a un, je lui donnerai le gouvernement de 10 villes. Et l'autre, il aura 5 villes, etc. C'est très concret, vous savez. C'est très concret. Et moi, j'attends des choses concrètes. Alors, on va continuer. Je suis à peu près à la moitié. Ça va, vous tenez le coup? Bon, sinon on fait un petit coup de se remuer et puis voilà. Hein. La tentation, elle est grande pour un être humain de se servir de Dieu plutôt que servir Dieu. Isabelle, elle proposait au peuple l'abondance par les cultes de Baal et de Asherah. Et derrière ces dieux, il y a des démons. Et je l'ai déjà raconté 50 fois, 100 fois, mais ça fait rien. Je radote, je vieillis, donc j'ai le droit de radoter. Si je décide que ça, c'est mon Dieu, cette bouteille, pourquoi pas, c'est de l'eau de lourde. Hein. Je ne bois que ça. Bon, je dis des bêtises là. Voilà, je décide que cette bouteille, c'est mon Dieu. Je vais donc adorer mon Dieu. Je vais allumer des bougies, tout ça, enfin, faire des petits rituels, hein, faire des prières à ma bouteille. Mais si je suis sincère, qu'est-ce qui se passe? Satan s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc Satan va regarder que je suis en train d'adorer ma bouteille. Et bien Satan va dire, mais je vais répondre moi. Et Satan me répond. Et je vais dire, ben oui, c'est vrai ma bouteille, c'est vraiment mon Dieu. Ça marche. Mais c'est tout bête comme truc. D'accord? Mais je vous préviens, quand Satan répond, c'est toujours payant. Écoutez, il y a un passage qui le dit. Jérémie 44, versets 17 à 18. À un moment donné, Jérémie il dit aux gens, mais arrêtez d'adorer la reine du ciel. Bon, la reine du ciel, on sait qui c'est, hein? Alors, ils disent, nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. Donc, les gens ne sont pas contents, hein? Nous voulons offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Vous vous rendez compte ce qu'ils faisaient? Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et la famine. Vous vous rendez compte? Je prie ma bouteille, elle me répond, elle me rend riche. Un jour on me dit, mais non, c'est de l'idolâtrie. Ok, j'arrête. Et je deviens pauvre. Mais c'est ça le mécanisme. On ne se rend pas compte ce que c'est que l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est ça. Donc, qu'est-ce que faisait le peuple? Il consommait du divin. Il prenait du divin. Ma bouteille, c'est du divin parce que je sais qu'il y a une puissance au-dessus qui va m'aider. Je consomme du divin. Et dans nos églises, on consomme du divin, mais on vous le présente sous une forme tout à fait acceptable. Regardez. Un tout petit peu d'hébreu. En hébreu, il y a la lettre He. Le He, c'est une lettre qui fait comme un H, comme ça, comme un pont, voyez, mais avec un petit trou en haut. Parce que c'est le souffle qui passe. D'accord? C'est facile, hein? Donc, si vous avez le Saint-Esprit, d'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait quand il a changé le nom de Sarai et d'Abraham, il a mis un hé à chacun. D'accord? Hé, le souffle. C'est le Saint-Esprit, si vous voulez. D'accord? Bon. Si, vous voyez, c'est dommage, je ne peux pas faire de dessin, mais si vous voulez, ça fait comme ça, et vous avez un bâton avec, il y a au-dessus du bâton, il y a un trou. D'accord? Ce bâton, c'est un vav. C'est un bâton. C'est un clou, si vous voulez. Et ce bâton, il représente Yeshua. Si vous tirez Yeshua par le bas, c'est-à-dire que vous le tirez en bas pour vous en servir, alors il s'allonge. Et au lieu d'avoir un « hé », vous avez un « kof », une autre lettre. Et vous savez ce que ça veut dire « kof » ? Ça veut dire « sage ». C'est-à-dire que quand vous voulez vous servir de Dieu, vous singez. On singe. C'est grave, hein? On ne se sert pas de Dieu, on le sert. Alors,
la louange et le
Ah oui, ça c'est aussi beau, la louange, on dit Alléluia. Alléluia. Et ça commence par un hé. Alléluia. Il y a une autre lettre qui ressemble très fort, hein, c'est le chet. Mais là, il n'y a plus de trou pour laisser passer l'esprit. Alors ça fait Alléluia au lieu de Alléluia. Et Alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire profaner. Si vous faites de la louange sans avoir le souffle de l'esprit, c'est une profanation. Et m'excuse, hein, mais je vous dis les choses comme elles sont. Hein. Moi, il y a des louanges, je ne supporte pas. Il y a même eu des louanges, moi je suis sorti de l'église, on ne supporte pas. On se fait plaisir. Les gens se font plaisir, ils font du bruit, ils font tout ce que vous voulez, mais moi je ne supporte pas. Hein. Ça ne me conduit pas dans la présence de Dieu. Ça me fait tourner la tête. J'ai mal à la tête. Le bruit, ce n'est pas ça qui conduit à Dieu. Ce qui conduit à Dieu, c'est ce qui est beau. Quelquefois, on a des ritournelles comme ça. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Je dis, mais je vais foutre le camp, moi, j'en peux plus. Il faut être sérieux avec Dieu. Alors, ça signifie que quand on considère Yeshua Mashiach, le Fils de Dieu, juste comme un instrument de bénédiction, eh bien, nous singeons la véritable spiritualité. Nous singeons. Et en fait, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient servir. Et notre foi, dans ce cas-là, je vous dis, elle ne tiendra pas longtemps. Parce que le jour où le Seigneur décidera de ne pas nous répondre pour une raison quelconque, qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas Yeshua qu'on est venu chercher, ce sont les bénédictions. Et ça, c'est une catastrophe. Et moi, je suis effaré du manque de sérieux dans la pratique des dons spirituels. Je radote encore, hein, je l'ai déjà dit 100 fois, mais je le redis à chaque fois que je peux. Les dons sont des outils que Dieu nous donne. Ce sont de simples outils. Avec un outil, je fais ce que je veux. Avec une pelle, je peux vous assommer. D'accord? Mais avec la pelle, en principe, je ne dois pas faire ça. Donc tout dépend ce que je vais faire avec. Donc tous les dieux m'ont dit, vous savez... Quand Dieu n'a rien dit, vaut mieux se taire. Et tout ce qui ressemble à une mise en scène de dons spirituels ou de légalisme, tout ce qui, le légalisme c'est une horreur, hein, ou à la religiosité, ça n'a rien à Dieu. C'est manger des légumes. Les légumes de Jézabel. Parce que dans le légalisme, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Je dis aux gens, mais vous faites tel rituel, quand vous sortez, est-ce que vous aimez mieux vos frères? Ben, c'est vrai quoi. Le fruit, c'est l'amour. Alors, quels sont les fruits qui sortent de nos comportements? On consomme du spirituel et je crois qu'il faut demander pardon au Seigneur pour ça. La vigne a été transformée en potager dans beaucoup d'endroits. Et dans le potager, on patauge. On patauge. Ensuite, on se sauve parce qu'on en a assez de patauger. Et parce que soit on va continuer à patauger, soit on va mourir. On va mourir pourquoi? Parce que on trouve qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Et puis, on n'en a pas non plus à donner. Alors, au sens spirituel, vous voyez, le jardin potager, c'est une image de l'Égypte, c'est-à-dire le pays de l'étroitesse, de l'esclavage des enfants de Dieu. Vous savez comment on arrosait le jardin potager? C'était le long du Nil, hein? Il y avait des petits ruisseaux et on mettait des mottes de terre. Et pour pouvoir arroser le jardin, il fallait taper dans les mottes de terre pour les écarter avec son pied. Et à ce moment-là, l'eau se mettait à couler. Donc, on patauge. Et c'est l'eau d'en bas. C'est l'eau d'en bas. Mais dans le royaume de Dieu, qui est représenté par Israël, regardez, Deutéronome 11, versets 11 à 14. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux des pluies du ciel. Il est arrosé par le Seigneur. Et on n'a pas besoin de patauger. Et plus loin, il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie. Mais je vous assure que si on fait ça dans notre vie, on est arrosé spirituellement. On est arrosé. Et on est nourri. La parole de Dieu nous nourrit. Alors on va retourner un petit peu au désert, parce que malgré tout c'est ce qu'on était parti faire. Et on va résumer un petit peu la situation au moment où Yeshua est parti au désert. Satan était devenu le prince de ce monde. La vigne, c'est-à-dire Israël à l'époque, avait été saccagé, en grande partie transformé en potager, ne donnant plus de fruits à cause des autorités religieuses. L'humanité ne pouvait plus accéder à l'arbre de vie, mais il se nourrissait de connaissances. Et la connaissance enfle, rappelez. Tous les hommes étaient pécheurs et perdus, devenus propriété de Satan. Alors le Fils de l'homme est venu avec une mission, c'est de reprendre l'humanité et la terre des mains de Satan. Et c'est quelque chose de légal, hein. Attention, c'est un acte légal, hein. Parce que si Satan avait pris la terre, c'est parce qu'on lui avait donné. Alors, fallait destituer Satan légalement de sa position, mais qui pouvait faire cela que le Fils de l'homme, parce qu'il fallait quelqu'un qui soit sans péché. Si Yeshua avait commis le moindre péché, tout tombait par terre et nous étions tous condamnés à l'enfer. Vous vous rendez compte de l'exercice là? Et il n'y a pas de preuve sans épreuve. Donc Dieu a envoyé l'incarné à l'épreuve. Il fallait une confrontation et non pas une simple discussion. Dieu voulait que la chair de Yeshua soit affaiblie au point extrême, juste après c'était la mort, d'accord? Et là, il a testé comment la chair réagirait. Vous vous rendez compte? Alors, 40 jours. Vous savez, 40, c'est pas rien dans la Bible. 40. 40, c'est la lettre même. 40, c'est la lettre même. Et 40, c'est le symbole d'une période où on passe d'un état à un autre. 40, c'est ça. La lettre même, elle est ouverte quand elle est au début ou au milieu d'un mot hébreu et elle est fermée à la fin. Il y a deux formes de la lettre même. Et par exemple, le mot maïm, maïm, c'est la mer. Maïm, c'est la mer. Il y a un mem, un yod, un mem. Donc c'est symétrique, comme une balance, vous voyez? Et le yod au milieu, yod, ça veut dire la main. La main de Dieu au milieu. Vous avez un mem au début, un mem à la fin. Et Maïm, ça veut dire la mer. Et il faut traverser la mer. C'est-à-dire qu'il faut traverser le peuple, il faut traverser le monde, il faut traverser sa vie et arriver de l'autre côté en étant toujours dans la main de Dieu. Alors, le mot 40. Je me suis amusé à chercher dans. Il y a des logiciels qui sont bien faits sur Internet. Et j'ai découvert que 40, c'est la valeur du mot levadad. Et levadad, ça veut dire vers la solitude. Yeshua est allé au désert vers la solitude, seul. Il est tout seul. Il va vers la solitude et il va devoir affronter tout seul Satan. 40, c'est aussi la valeur du mot Lego. Alors attention, c'est pas les Lego. Et Lego, c'est quoi? C'est au milieu d'une fournaise. Autrement dit, rappelez le verset de Daniel qui dit, quiconque se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté dans l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Eh bien, Yeshua, il s'en va 40 jours seul au milieu de la fournaise du désert. Allez donc habiter dans le désert. 40 jours, vous allez voir, au soleil, la nuit c'est froid, etc. 40, c'est aussi le mot irré. Irré, ça veut dire être affaibli. Au bout de 40 jours, il sera très affaibli. Vous imaginez 40 jours sans manger? Tout seul, personne pour parler, personne pour l'aider, personne pour surveiller. Hein, les gens qui font des grèves de la faim, ils sont souvent maintenant surveillés par des médecins. Hein. Là, non. Hein. Là, le mot, ça, cette racine, c'est kara, qui signifie être faible, assombri, au point d'en être à se décourager, éventuellement d'abandonner. Donc Dieu le met dans une situation épouvantable où il est au bout de ses forces. On ne se rend pas compte de ça. Hein. Et il est écrit dans Ésaïe 42,4, il ne se découragera pas et ne se relâchera pas. Donc Yeshua, même au temps où il est le plus affaibli, ne se décourage pas. 40, c'est aussi le mot végalal, végala, pardon, vénala. Vénala, ça veut dire et révèle. C'est-à-dire que quand on est à un point de faiblesse comme ça, ce qui est dans le cœur est révélé. J'ai été malade à un moment donné de ma vie Et je disais aux gens qui venaient me voir, je disais, la maladie, c'est comme des pelures d'oignons. Au fur et à mesure que vous voyez progresser la maladie, c'est comme si on tirait des pelures d'oignons autour de vous. Vous êtes un oignon et puis on tire des pelures et au bout d'un moment, on arrive au cœur. Et la maladie vous conduit au cœur. Parce que vous vous dites, mais je vais finir comment ? Est-ce que j'arrive à la mort ? Et là, je vous assure que vous vous posez des questions et votre cœur, il sort. Hein? Et bien là, voilà, 40 jours et son cœur est révélé. Et puis, 40, c'est aussi agabel, un autre mot, qui veut dire fixer des limites. Vous voyez, qu'est-ce que va faire Yeshua ? Il va fixer des limites à Satan. Et il va dire non, la terre n'est pas à toi. Non, je me prosternerai pas devant toi pour avoir la terre. La terre, je l'aurai, je la récupérerai par un acte dont tu n'as pas idée. C'est que je vais mourir et ressusciter. J'avais raconté dans une autre histoire, mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais Israël était marié avec Dieu. Vous savez qu'il y a Juda et Israël, hein, le royaume du sud et le royaume du nord. Et Israël, le royaume du nord, était, comme le royaume du sud d'ailleurs, était marié avec Dieu. Et un jour, Dieu en a eu assez du péché d'Israël. Et il a dit, je divorce d'avec toi. Je divorce d'avec toi. Donc, il a dispersé Israël. Et Israël, c'est Ephraïm dispersé dans le monde. C'est les 10 tribus perdues. On essaye de les retrouver. Mais si Ephraïm veut se remarier avec Dieu, la loi l'interdit. On n'a pas le droit de se remarier avec son ancien mari ou son ancienne femme. Ah, comment faire ? Il n'y a qu'une solution. Et c'est là qu'on voit que Yeshua est allé au bout de la loi. Il est mort et ressuscité et la loi ne dit plus rien. Vous pouvez vous remarier. Mais c'est comme ça qu'ils reviendront. Tout Ephraïm, tout Israël sera sauvé. Quand ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Vous voyez ? Tout est écrit. Alors, après 40 jours, qu'est-ce qui se passe après 40 jours ? Il se passe quelque chose, c'est que le doigt de Dieu intervient. Moïse est monté pour 40 jours, il a jeûné pendant 40 jours, il a fait ça trois fois en fait. Et au bout de 40 jours, qu'est-ce que Dieu a fait ? Avec son doigt, il a écrit la loi. Au bout de 40 jours. Et là, 40 jours, il y a ces trois épreuves, et après commence le processus qui va conduire à cette chose extraordinaire qui est écrite dans Jérémie 31, verset 33. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur. Le processus est pour en arriver à ça. Et il doit mettre aussi ses lois dans notre cœur. Il faut que nous ayons le cœur circoncis. Circoncis, c'est faire un trou dans le cœur. Pour que ces lois puissent rentrer. J'avais donné cet enseignement à Hébreux il y a quelque temps. 40 jours, le corps physique de Yeshua est très affaibli. Ce qui s'est passé au désert, on n'en a pas idée. C'est certainement l'une des plus grandes batailles spirituelles qui soit, certainement. Et je vais essayer de vous expliquer ici quelque chose, mais pour ça, il faut regarder la création des animaux et de l'homme. Je vous prends le verset Genèse 2:7. Je dis en français, l'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie et l'homme, et là je continue en hébreu, les nefesh raim, qui se traduit par devint une âme vivante. Les nefesh raim. Quand Dieu a créé les animaux, il dit dans Genèse 2, verset 19, la fin du verset, et telle chaque âme animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. Âme a été traduit par espèce, d'accord ? Et ça se dit Nefesh Raim. Donc pour l'homme, c'est les Nefesh Raim, et pour l'animal, c'est Nefesh Raim. Une lettre de différence. Cette lettre, c'est la lettre Lamed. La lettre Lamed, c'est la seule qui monte au-dessus des autres lettres. C'est-à-dire que l'homme a reçu quelque chose qui lui permet de monter vers Dieu. L'animal, non. Mais ce sont tous les deux des âmes vivantes. Vous vous rendez compte ? Et ça, il faut aller le voir dans l'hébreu. Alors, ok, Yeshua, il arrive au bout de sa force. Il a faim. La parole nous dit il eut faim. Il a faim. Maintenant, ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais ça ne fait rien. Parce que je pense que c'est ça aussi. Est-ce qu'il va savoir monter vers Dieu? Ou est-ce qu'il va se comporter en animal? Si c'est un homme, il va passer au-dessus de sa faim et obéir à Dieu. Si c'est un animal, il se soumettra à Satan pour pouvoir manger. C'est là le test. Parce que s'il est capable de passer ça, alors il passera l'épreuve de la faim qui est la croix. Vous comprenez ça? C'est très puissant. C'est très puissant. Et le Seigneur, dans notre vie, il nous met des épreuves du même type. Est-ce que nous allons nous comporter comme des animaux ou comme des hommes? Salomon, quand il parle de son fils au moment où... Non, c'est David, quand il meurt, il dit à son fils Salomon, sois un homme, sois un homme. Ne sois pas un animal, ne vis pas comme un animal, sois un homme. Et la noblesse de l'homme, c'est de pouvoir monter vers Dieu. Alors on passe en revue, mais ça va aller vite, les trois épreuves. Il y a l'épreuve de la nourriture. Mais mettez-vous un petit peu dans la peau de Yeshua, si on peut le faire. Yeshua, il vient de se faire baptiser. Et il entend une voix en lui qui lui dit, va au désert. C'est la voix de Dieu. Il entend. Il arrive au désert, il jeûne. Et tout d'un coup, il est très affaibli, il entend une autre voix. Il entend une voix. Et il entend une voix qui lui dit les paroles de Dieu. C'est qui ? Mais je m'excuse, mais vous savez, Satan, il ne se présente pas avec sa cravate et tout bazar. Hein ? C'est qui lui parle ? Donc, premièrement, première chose, discerner. Mais qui me parle ? Et c'est dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il dit, qu'il doit discerner qu'il y a un piège. Mais quand tu es épuisé comme ça, attention, l'esprit, d'accord ? Vous savez, quand on obéit au Seigneur, il nous semble logique qu'il nous parle, et c'est vrai, mais Dieu teste ses serviteurs. Et la tentation ici utilise, c'est la même technique qu'avec le premier Adam. Si. Et donc, il essaye de mettre une lézarde dans la foi. Et qu'est-ce qu'il cherche à voir ? Je vous rappelle que Satan a le droit de le faire. Hein. Il a reçu le droit. Hein. Pourquoi il fait ça ? Eh bien, parce qu'il veut sonder le cœur et il veut savoir, mais quelle est ta motivation ? Qu'est-ce que tu es venu chercher ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ? J'ai déjà raconté que on peut venir chercher la guérison quand on est malade, etc. Bien sûr, le Seigneur peut vous guérir. Mais quand vous serez guéri, qu'est-ce que vous ferez ? Moi, je préfère aller dans le royaume de Dieu malade que en bonne santé en enfer. Quand j'étais malade, je me posais des questions, mais je me disais, mais Seigneur, bon, je me posais des questions, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce verset qu'on trouve dans le Tanakh, qui parle du prophète Élisée, et il est écrit, Élisée mourut de la maladie dont il était atteint. Élisée n'a pas été guéri, hein. Élisée reprenait sa vie, hein, c'était pas un pécheur, hein, c'était un homme comme tout le monde, bien sûr. Mais attendez, c'est une image du Mashiach, Élisée. Hein. Donc vous voyez, c'est important. Hein. Qu'est-ce qu'on est venu chercher ? Est-ce qu'on est venu chercher de rencontrer Yeshua et que, éventuellement, il y ait une guérison, ou est-ce qu'on venait chercher une guérison et basta? Faut penser plus loin que le bout de son nez. Faut penser plus loin que le bout de son nez. L'épreuve, elle arrive jamais quand on est prêt à l'affronter. Elle arrive toujours quand on est en état de faiblesse. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, mais je suis vulnérable. Quelqu'un a dit, tant qu'un être humain n'a pas eu l'occasion de désobéir, il n'a pas mis en œuvre son obéissance. Et en général, la désobéissance, on la fait quand on est tout seul. Comme ça, on ne nous voit pas. Pas vu, pas pris, comme il dit l'autre. Un être ne devient ce qu'il est que lorsqu'il est face à un défi. Yeshua n'a pas choisi la puissance pour combler sa faim physique. Il a choisi d'obéir à Dieu. Nous avons tous des besoins. Des besoins, c'est normal, on a des besoins qui sont légitimes. Mais nous ne devons pas les satisfaire n'importe comment. La plupart des désirs sont bons. C'est Dieu qui nous les donne, ces désirs. Même les désirs sexuels, bien sûr. Mais nous ne devons pas les satisfaire n'importe comment. Il faut devenir des hommes et des femmes de Dieu. La deuxième épreuve, c'est que le diable transporte sur la hauteur. Il le place sur le haut du temple et puis il dit, jette-toi en bas, on connaît l'histoire, et les anges vont te ramasser en route. Satan emmène Yeshua en haut du temple. Et c'est la même parole, si tu te jettes, tu vas faire ta, et c'est la parole de Dieu. Et puis, parce que Yeshua lui avait dit, tu sais, la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Ok, ben moi je vais te donner la parole de Dieu. Jette-toi. Et tu vas voir. Si tu as la foi, il va te ramasser. C'est une vieille méthode, hein, ça. Ça s'appelle tenter Dieu. Ça s'appelle tenter Dieu. Quelquefois, dans nos vies, on est conduit dans des situations très insupportables, très inconfortables. Et nous exigeons de Dieu la solution. On devient exigeant. Seigneur, si tu ne fais pas ça aujourd'hui, alors là, je te quitte. Ou pire, si tu ne fais pas ça aujourd'hui, je me flingue. Hey, ça s'appelle tenter Dieu, ça. Ça s'appelle tenter Dieu. Parce que on considère que le fait d'être dans cette situation catastrophique, c'est la preuve que Dieu ne nous aime pas. Donc, s'il ne nous guérit pas, c'est que Dieu ne nous aime pas. Donc, je le quitte. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu veut nous faire passer par des chemins et des chemins d'épreuves pour nous transformer. Et quelquefois, ce sont des chemins très douloureux. Et il nous transforme parce qu'on a besoin d'être changé. On a besoin d'être changé, on a besoin d'avoir la bina en nous. On a besoin de recevoir des choses de lui. Et c'est au travers de la souffrance. Moi, il m'a mis au lit, on va le dire, pendant 4 mois et 11 jours. Et pendant ce temps-là, je ne pouvais pas bouger. Il fallait que je regarde le plafond parce que j'avais désobéi. Et ma désobéissance, c'était de devenir trop activiste. C'est une désobéissance. Je faisais des œuvres qui ne servaient à rien. Donc Dieu a dit, mais moi, je vais t'arrêter, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et on a eu beau me faire une onction d'huile, c'était pire. Et voyez ça, c'est la confrontation. Ce que l'on vit. Ce que l'on vit finalement, parce que tout tourne autour de la parole. Ce que l'on vit, c'est la confrontation entre la parole de Dieu pure et droite et la parole de Dieu manipuler. Si la parole est manipulée, c'est pour satisfaire l'âme et la chair. Si la parole est pure et droite, c'est d'abord pour l'esprit. Ça va? C'est long, hein? Bon. Alors on en arrive à la troisième épreuve qui est la gloire. La gloire. Il le transporte sur une haute montagne et puis il lui dit, si tu te prosternes devant moi, tralala, tralala, tu auras tout ça. La gloire. Attention. On dit souvent qu'il y a trois dangers pour les serviteurs de Dieu. Mais je dis, il y a trois dangers pour tout le monde. Tous les vous êtes tous des serviteurs de Dieu. L'argent, le sexe et l'orgueil. D'accord ? Et il y en a des quantités qui tombent là-dedans. C'est la tentation de la puissance. D'une manière ou d'une autre, quand on fait quelque chose pour le Seigneur, si on en tire gloire, on est un voleur. Si on est un voleur, on a la malédiction du voleur. M'excuse de vous dire comme ça. Vous savez, ça arrive plus souvent qu'à son tour. Hein. Moi, je vous dis, hein, réfléchissez bien dans votre vie. Mais si, vous, par exemple, vous faites des écritures, vous écrivez des textes, et que vous copiez les textes de quelqu'un sans le citer, vous êtes un voleur. Si vous allez faire des photocopies pour vous au boulot, vous êtes un voleur. Excusez-moi. On ne se rend pas compte de ça. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'on veut chercher la gloire? Pourquoi est-ce qu'on veut chercher ça pour être reconnu? Ben, je vous dis, quelqu'un qui cherche à être reconnu, il y a quelque chose qui ne va pas. La vraie reconnaissance, c'est Dieu qui nous la donne. Ce n'est pas les hommes. Alors, je vais bientôt terminer en vous citant un verset simplement. La fiancée et le bien-aimé sont passés tous les deux au désert. Ils ont tous les deux subi des choses qui les ont formés. Et maintenant, ils vont arriver au temps du mariage. Dans le Cantique, chapitre 2, versets 8 à 10, il est dit « C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. » Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Vous imaginez les Juifs au mur des Lamentations. Il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle. » Et viens, que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Amen.